Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au petit commerce. À l'ordre du jour ce soir, les petits commerces sont-ils des biens publics? Alors qu'Emmanuel Macron devrait annoncer demain, lors de son allocution télévisée, une réouverture prochaine de ces petits commerces, la défense de ces derniers semble être désormais partagée par la droite comme par la gauche, au point que l'économiste Esther Duflo, qui a reçu ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie pour les travaux sur la pauvreté qu'elle a exercés, a pu affirmer, c'était lors des matins de France Culture la semaine dernière, qu'il s'agissait de biens publics. Comment ce secteur, habituellement considéré comme le propre du privé, peut-il être devenu un bien public? Car, je cite Esther Duflo, il y a une valeur sociale et environnementale à avoir des centres-villes vivants. Comment les représentants et les défenseurs des petits commerces ont-ils, par exemple, obtenu récemment le report du Black Friday? Comment l'arrivée de géants de la vente en ligne a-t-elle conduit à une alliance étonnante destinée à redynamiser, si c'est encore possible, le commerce de centre-ville déjà sévèrement mis à mal par les centres commerciaux de périphérie? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Vincent Chabot. Bonsoir Vincent Chabot.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à Paris Descartes, chercheur au centre de recherche sur les liens sociaux et auteur cette année d'un éloge du magasin contre l'amazonisation chez Gallimard. Avec nous également Marie-Hélène Toraval. Bonsoir Marie-Hélène Toraval. Vous êtes maire de Romans-sur-Isère, sans étiquette, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes et ancienne députée de la Drôme. Et avec nous également Willem Coverlet. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil du commerce de France depuis 2016. Vous êtes également président de la Fédération française de la parfumerie sélective et de la Fédération européenne des parfumeurs distributeurs.
Nous avons travaillé avec l'ensemble de nos branches professionnelles à réfléchir à des mesures sanitaires renforcées pour pouvoir rouvrir le plus vite possible. Si c'est au 1er décembre, eh bien il faut maintenant que les mesures de soutien soient à la hauteur des sacrifices qu'on demande à ces entrepreneurs, tout simplement parce que, vous savez, les lumières de nos villes, ce sont les lumières des vitrines, surtout en ce temps de Noël. Je ne peux pas imaginer et me résoudre demain à voir des villes mortes. C'est inconcevable.
On est en train d'assassiner des commerçants qui vont être ruinés. On va avoir des suicides sur les bras, et là, il y a une détresse. Je vais vous dire, j'aurais préféré fermer les supermarchés, parce qu'au moins, ils ont de l'argent pour indemniser leurs salariés, et laisser ouverts les commerçants, parce qu'au moins, ils sont un peu plus éparpillés, et ça permet de répartir le risque. La fermeture des librairies et le maintien des plateformes, dans les plateformes, il y a autant de problèmes de promiscuité.
Quand je vois les petits commerces qui ferment, évidemment que j'ai le cœur fendu et j'ai envie de les aider et j'ai envie vraiment de faire en sorte qu'ils puissent réaliser ce que nous on appelle modestement la transition digitale. Vous savez que 72% aujourd'hui des commerces allemands vendent en ligne, 30% des commerces français vendent en ligne, et donc c'est notre rôle, je pense, de proposer des solutions qui leur permettent de se lancer dans l'aventure. Elle vaut le coup, l'aventure.
Vous aurez peut-être reconnu des déclarations du président de la CPME, François Asselin, de l'ancien ministre Arnaud Montebourg, ainsi que du président d'Amazon France, Frédéric Duval. Sacrifice, suicide, cœur fendu, visiblement. On est dans un moment très délicat, très difficile pour ces petits commerces. On peut dire que vous avez sorti votre livre, Vincent Chabot, qui s'intitule « Éloge du magasin contre l'amazonisation » il y a quelques mois, mais que vous êtes absolument dans l'actualité.
Il y a un consensus politique. Alors, peut-être que ce consensus politique est antérieur à la crise de la Covid-19. Finalement, pour prolonger la réflexion d'Esther Duflo, moi je dirais que les commerces ne sont pas des biens publics, ce ne sont pas des organisations financées par l'État pour le bien de tous, comme un réverbère, comme une radio publique.
Pas des biens communs, comme on peut dire aussi.
Mais le commerce reste une activité privée qui comporte toutefois de forts enjeux publics. Et effectivement, les élus locaux, une partie d'entre eux, depuis une dizaine d'années, finalement ont pris conscience de la totalité de ces enjeux et des centres-villes, la dynamique du centre-ville, l'emploi, l'attractivité du territoire, etc.
Oui, Marie-Hélène Toraval, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même maire de Romans-sur-Isère, sans étiquette. Vous vous êtes aperçu quand, effectivement, que cette question des petits commerces pouvait être... Alors, est-ce un bien public? C'est difficile parce que il y a une définition précise de ce que sont des biens publics, mais sinon des biens publics, en tout cas, des biens d'intérêt général, pourrait-on dire, dans le territoire que vous dirigez en tant que maire?
Je n'ai pas entendu les propos des invités de ce soir, mais moi, je partirais sur la notion de bien commun, avec un objectif d'intérêt général. Cette prise de conscience, il n'a pas s'agit d'une prise de conscience. Je pense que c'est quelque chose aussi qui tient à cœur des maires. Et dès mon mandat en 2014, c'est une politique dédiée qui a été mise en place, quoi, parce que j'avais cette particularité d'avoir un centre-ville en deux parties, l'un qui était intégré dans un centre ancien médiéval qui peu à peu avait été déserté, puis un autre sur des grands boulevards qui était plus dynamique, et puis une zone périphérique aussi qui elle avait vu l'implantation de centres commerciaux.
Oui, William Coberlé, bonsoir. Vous êtes vous-même donc président du Conseil du commerce de France, qui est un ensemble, une fédération qui rassemble à la fois des petits commerçants, mais aussi de très grandes enseignes, mais aussi des enseignes du commerce en ligne. Est-ce que ce sont des biens publics, ces petits commerces ?
Alors, moi, je pense que le terme de bien public n'est peut-être pas approprié. Ce qui est important, c'est qu'ils sont essentiels, ces commerçants de proximité, et que derrière ce lien social qui aujourd'hui se fait jour compte tenu du Covid-19 est bien monté en exergue. Donc de là aller jusqu'à bien public, c'est quand même une activité qui est privée.
Non, ce que disait Esther Duflo, c'est simplement qu'elle comparait, ayant vécu longtemps aux États-Unis, les centres-villes américains totalement désertés, où il n'y avait plus aucun commerce, avec les centres-villes français. Elle disait, quand on compare, il y a bien une valeur sociale et environnementale à avoir des centres-villes qui soient vivants, disait-elle.
Oui, j'allais terminer pour vous donner une image. C'est autant un port aujourd'hui, personne ne se pose la question si c'est quelque chose de privé ou de public. C'est un bien public dans lequel les bateaux sont privés, réorganisés et à un moment donné fait en sorte qu'il y ait un certain équilibre. Donc voilà ma réponse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, à mon sens, doivent être publiques et qui sont la force de la collectivité. Mais derrière, il faut laisser le commerçant en tant que tel avoir son business, son travail est bien privé.
On ne pouvait pas espérer une meilleure promotion, Vincent Chabot, que d'avoir une promotion pour le Black Friday comme celle que nous avons connue. Voilà un moment qui était assez peu connu. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre « L'éloge du magasin ». Vous avez un chapitre consacré à ce Black Friday qui est une invention récente, un peu comme Halloween. C'est importé à une époque où personne ne le connaissait auparavant, et vous dites ça arrive et ça se développe. Effectivement, ça s'est développé, je crois que c'est 6 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière en 2019, mais néanmoins là, on peut dire que c'est devenu le centre du débat.
Les chiffres, à mon avis, pour la situation française sont un peu exagérés. Il n'empêche que effectivement, par le commerce en ligne et par Amazon, le Black Friday s'est importé en France. Il se trouve que le Black Friday est devenu finalement un nouveau temps fort, comme les soldes, de la société de consommation, de la société d'hyper-consommation. En même temps, il permet aussi à toute une partie de la population, c'est pour ça que c'est très ambivalent, d'acheter des produits à prix réduit. Ce jour-là.
C'est ce qu'on appelle une journée de rattrapage, dites-vous.
Une journée de rattrapage, oui, effectivement. Une consommation de rattrapage, notamment pour les milieux sociaux qui ont un budget contraint. Il faut voir aussi que ce Black Friday, il correspond aujourd'hui à la date, à un ou deux jours près, de la réouverture des petits ou grands commerces spécialisés. Donc effectivement, il a lui aussi une publicité assez considérable cette année.
Oui, c'est ce que vous avez pu voir, effectivement. Pourquoi ça s'est cristallisé autour du Black Friday, William Coberlé?
Déjà, c'est parce que l'importance du chiffre d'affaires réalisé sur cette semaine-là, c'est-à-dire sur les 52 semaines de l'année, les deux semaines qui viennent juste avant Noël sont les plus importantes. Et en troisième position, dans les magasins, c'est cette semaine-là. Donc, rester fermé pour les magasins alors que l'ensemble des plateformes et des sites auraient pu faire leur chiffre d'affaires seuls. Ça a été pris par les magasins dits est mal nommé, hein, non essentiel, comme une véritable injustice. Voilà le pourquoi de cette discussion autour du Black Friday.
J'imagine que dans une fédération comme la vôtre, le Conseil du commerce de France, qui comporte à la fois des petits et des très grands commerçants, comme je l'ai dit tout à l'heure, William Comerlé, il doit y avoir des discussions qui sont un peu difficiles. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Pour vous, ça ne doit pas être très simple en tant que président de cet organisme.
Même les quatre bouts, parce que rien entre un indépendant. Des chaînes d'hypermarché, enfin j'ai la fédération des chaînes d'hypermarché, la fédération qui est sur la vente à distance avec justement les plateformes et les grands magasins de centre-ville, chacun ont une vision différente. Par contre, une chose qui nous unit, c'est qu'aujourd'hui le métier de commerçant, il est devenu omnicanal, c'est-à-dire que qu'on soit dans un magasin, on ne peut pas se passer d'une présence et d'avoir fait le virage du numérique. Mais d'un autre côté, vous voyez que l'ensemble des gros acteurs sur Internet également ont besoin d'avoir une présence en magasin.
Oui, Marie-Hélène Thoraval, vous avez pris des décisions un peu radicales en tant que maire de Romans-sur-Isère. C'était de prendre un arrêté municipal pour autoriser, alors que c'était interdit, les commerces non alimentaires à rouvrir dans votre ville. Vous avez fait ça pour quelle raison? Est-ce que c'était une raison qui... Alors, on peut pas dire que ça soit une raison électoraliste, les municipales sont dépassées désormais, c'était pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est l'association des commerçants? C'est votre conscience de maire qui disait que c'était pas possible de fermer les commerces de centre-ville? Qu'est-ce qui vous a poussé
En tout cas, ce n'était en aucun cas de braver un interdit, mais finalement, à plusieurs maires, nous avions envie de dénoncer un petit peu l'injustice qui s'abattait sur nos commerces de centre-ville. C'est vrai qu'il était difficilement concevable de les considérer comme non essentiels, alors que pour nous, ils sont essentiels sur l'animation de nos centres-villes. Et comment expliquer que les produits que eux vendaient ou les produits similaires dans une grande surface pouvaient avoir leur clientèle et pouvaient être accessibles à la vente? Donc c'est pour cette raison que nous sommes manifestés pour que les commerces de centre-ville puissent aussi être écoutés et être entendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la force de frappe de la grande distribution et on était les porteurs.
Ce qui est quand même très étonnant, Marie-Hélène Thoraval, c'est que pendant très longtemps, les maires de communes comme la vôtre, villes moyennes ou villes un peu plus grosses, entre, mettons, 10 000 et 100 000 habitants, ont longtemps favorisé la création des centres commerciaux, etc. et qu'on a l'impression qu'il y a un changement d'époque. Écoutons, par exemple, ce que raconte un libraire de Tournu en Saône-et-Loire, cet extrait d'une série de LSD, la série documentaire sur France Culture, diffusée en février 2019, et donc conçu par Martine Abbat et réalisé par Assia Ralid. On l'écoute.
La municipalité précédente est arrivée un petit peu comme le chevalier blanc en disant « Oh là là, ça va pas du tout, le commerce est en train de mourir, nous on a une super idée pour revitaliser le centre-ville, on va vous créer un centre commercial de 20 000 m² en dehors de la ville et vous allez voir, ça va revitaliser le centre. » Pour revitaliser la librairie ici, qui fait 120 m², il crée une librairie, un centre culturel Leclerc de 600 m². C'est certain que ça allait bien me revitaliser, moi. Ils allaient revitaliser mon collègue en face qui fait des articles de sport en créant un magasin de sport de 1000 m². Ils allaient revitaliser les magasins de chaussures en créant un ou deux magasins de chaussures 1000 m² chacun. Pareil pour l'optique. Très vite, avec deux, trois commerçants, on a décidé de réagir, de créer une association qui avait deux buts, se battre contre l'implantation de ce centre commercial des villes et en même temps faire des propositions pour revitaliser la ville.
Voilà donc ce libraire du Tournu enregistré l'année dernière pour la série LSD. Marie-Hélène Thoraval, ça a longtemps été une politique, ça, de créer des centres commerciaux en périphérie des villes et de faire mourir les centres-villes. On peut dire que les élus, qu'ils soient municipaux, départementaux ou régionaux, ont pris leur part dans cette histoire.
Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, et je pense qu'il faut sortir de ce clivage. La première des choses, je pense qu'il y a eu ce développement des grandes surfaces parce qu'elle correspondait aussi à une évolution du comportement des consommateurs, parce qu'il faudrait peut-être en parler aussi du consommateur.
Ah, bien sûr.
Et je pense que ce consommateur est capable de faire des courses en grande surface et d'avoir un intérêt pour d'autres produits sur des commerces de centre-ville.
Et comment vous le mesurez cela, par des enquêtes, par des travaux avec du retail management, comme on dit maintenant? Qu'est-ce qui vous permet de savoir justement qu'on peut maintenir des commerces en centre-ville tout en créant par exemple des grandes surfaces en périphérie?
Parce que nous on a fait le choix d'avoir un manager de centre-ville, c'est-à-dire d'avoir une politique très active sur le développement du commerce, en tablant aussi sur le taux de vacances, en intervenant dessus et en intervenant tout particulièrement sur le choix des commerces à réimplanter dans nos centres-villes. Si c'est pour aller faire des copier-coller de galeries marchandes, ça ne marchera pas. Je dis que les centres-villes, pour qu'ils gardent de l'intérêt, faut qu'ils prennent un nouveau positionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne retrouvera pas les centres-villes d'il y a 30 ans. Il faut écrire une autre histoire des centres-villes. Et l'autre histoire des centres-villes, aujourd'hui, elle se fait au travers de commerces qui vont amener une expérience, des commerces qui vont amener du conseil, des commerces qui vont amener aussi un lien social entre le consommateur et le vendeur. C'est aussi, un centre-ville, quelque part, un cabinet de curiosité, c'est-à-dire que je dois trouver un centre-ville, ce que je ne trouve pas ailleurs.
Oui, effectivement, Vincent Chabot, moi j'ai appris beaucoup de choses en vous lisant dans votre livre Éloge du magasin contre l'amazonisation, beaucoup de nouveaux termes, etc. Le retail-tainment, donc on fait dans certains endroits effectivement de l'entertainment avec la vente. Et là, ce que disait Marie-Hélène Storaval, c'est donc la question de l'émotion.
Oui,
du magasin.
La question de l'attractivité, c'est finalement, j'ai écrit ce livre aussi pour montrer que, au fur et à mesure que le e-commerce se développait, eh bien, les fonctions sociales du magasin apparaissaient et étaient soulignées par cette nouvelle concurrence. Quand on revient au débat que vous avez réintroduit sur un peu l'histoire de l'appareil commercial depuis les années 60, il y a effectivement ce débat entre la périphérie et le centre, mais aujourd'hui, on oublie une dernière révolution commerciale, c'est celle du e-commerce, évidemment. C'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui réguler le commerce, l'appareil commercial français, sans penser effectivement eh bien, aux opérateurs numériques, aux plateformes, qui deviennent finalement, à côté des distributeurs et des commerçants, eh bien, la nouvelle architecture des transactions économiques.
Oui, William Comerlé, par exemple, effectivement, l'arrivée massive de ces grandes plateformes, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou étrangères, de ces grandes plateformes de vente à distance, eh bien, oblige les petits commerces à changer. C'est ce que vous expliquez avec l'omnicanalité dont vous parlez souvent, William Coberlé, cette idée qu'il faut être à la fois, quand on a un petit magasin, il faut être sur le net et puis aussi avoir une vente physique. C'est ce que aussi Vincent Chabot appelle le figital.
Oui, oui. Ben, c'est clair qu'aujourd'hui, un client, pour se renseigner, il va aller sur le net. Et je dirais que si je prends l'exemple de la parfumerie, vous avez jusqu'à 70% des clientes qui, avant de venir en magasin, vont regarder les prix, les horaires, la géolocalisation. Et quand elles viennent en magasin, eh ben, clairement, ce qu'elles veulent, c'est sentir, c'est toucher, c'est voir. Et c'est là qu'elles vont acheter. Parce que même si elles se renseignent à 70% avant, elles achètent à 90%, c'est-à-dire le chiffre d'affaires est fait à 90%, été, j'allais dire, parce que les choses s'accélèrent en ce moment, mais à 90% dans le magasin. C'est-à-dire que faut pas opposer les choses, ils sont complémentaires. Et les clientes ou les femmes qui achètent le plus en magasin, c'est celles qui vont visiter les sites le plus également.
Mais vous dites, ils sont complémentaires, William Coberlé. Ça n'est pas ce qu'on entend quand on entend les hommes et les femmes politiques, en particulier ceux du gouvernement, qui nous parlent de suicide, qui nous parlent de sacrifice, qui nous parlent de mort. Vous dites, on peut à la fois mourir et renaître à la fois. On a entendu effectivement vous-même, vous avez fait une lettre en disant au président de la République, en disant ouvrir ou nous faire mourir, par exemple. Il y a tout de même une dimension dramatique qui est un peu exagérée par tous les acteurs, peut-être.
Ce que je vous disais, c'est que l'omnicanalité, c'est les deux. C'est-à-dire que le modèle aujourd'hui et le modèle d'omnicanalité, il est nécessaire que même un indépendant puisse avoir une trace, une présence sur le net, parce que c'est en fait, c'est sa vitrine déportée, si vous voulez. Après, le deuxième sujet que vous annoncez, c'est de dire, y a-t-il aujourd'hui une concurrence qui est vraiment trop exacerbée entre les grandes plateformes et le commerce indépendant? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, le commerce indépendant, malheureusement, à plus de 50%, n'est pas encore présent sur le net. Donc déjà, il faudrait pouvoir être présent. Et là, quand on parle de biens publics, il y a peut-être des choses à faire, tant au niveau de la data, de la logistique, pour les aider. Mais déjà, au départ, il faudrait qu'ils puissent être présents pour dire qui ils sont.
Mais il y a déjà, déjà beaucoup d'argent public, effectivement, qui a été donné, justement, pour que ces magasins ne meurent pas immédiatement. Un petit mot, Marie-Hélène Toraval. Il y a ce qu'on appelle l'action Cœur de Ville. Ça, c'est de l'argent public qui a été lancé début 2018 dans 234 villes de France, de 20 000 à 100 000 habitants, qui sont donc des actions pour pouvoir revitaliser les centres-villes dans des villes qui avaient vu perdre, le centre-ville avait perdu les petits commerces. Est-ce qu'on peut en faire un bilan, et surtout un bilan à mi-chemin, pourrait-on dire, lancé en 2018, mais avec une crise comme celle que nous connaissons qui arrive en 2020, ça ne doit pas être très simple pour eux.
Bah, ça n'a pas été très simple, mais je voulais vraiment saluer cette initiative qui avait été de lancer Action Cœur de Ville. Je voulais juste préciser une chose, ce ne sont pas des subventions de l'État qui sont arrivées sur les villes, mais la capacité à mobiliser des financeurs pour conduire et mener des projets. Donc nous avons
avec
été
une
largement,
garantie étatique.
Et nous sommes, voilà, mais nous sommes largement accompagnés, notamment par la Banque des Territoires, notamment dans tout ce qui va nous porter et nous conduire à faire des études de prospective et de développement pour nos centres-villes. Et je dois dire aussi que, suivant les régions, l'argent public est arrivé aussi en fonction des souhaits des présidents de région. Il se trouve qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été particulièrement aidés par le président Wauquiez qui a alloué une subvention d'un petit peu plus d'un million 800 000 euros sur l'ensemble des communes qui avaient été retenues dans ce dispositif. Donc ça nous a permis d'avoir un effet levier pour engager des projets d'envergure.
Mais qui risque d'être compromis par justement la situation que nous connaissons depuis presque un an maintenant. Enfin, ça fait 9 mois et ça risque de se poursuivre encore pendant quelques mois.
Je veux dire qu'il faut garder quand même un esprit optimiste. Je veux dire tout ce qui a été fait n'est pas à jeter, bien au contraire. Aujourd'hui, l'action, elle est menée notamment sur toute la partie digitalisation. Le premier confinement avait amené de nouveaux commerçants à avoir cette vitrine déportée, comme vous le précisiez, Monsieur Coberlé, tout à l'heure. Et puis certains se sont relâchés au moment du déconfinement. Et puis là, il faut reprendre. Donc moi, je vous rejoins dans la notion et la nécessité de l'omnicanalité, parce que je pense aussi qu'il revient à chacun d'entre eux d'avoir ce canal de distribution, enfin, non pas en parallèle, mais qui soit véritablement intégré dans leur stratégie. Mais commerçant, le métier a changé aussi.
Vincent Chabot.
Ben, le premier confinement, finalement, a fait apparaître que l'atout numérique, bien entendu, était indispensable. C'est-à-dire que les magasins connectés s'en sont mieux sortis que les autres. Ça, c'est évidemment évident. Une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a répété cette injonction à la numérisation, il faut aussi rappeler que, premièrement, la compensation, si on voit la situation actuelle pour les librairies ou pour d'autres secteurs aujourd'hui fermés, le click and collect ne compense pas la perte des ventes digitales, des ventes socialisées.
Le click et emporté,
pardon. Voilà. Deuxième argument, tous les commerçants, les indépendants, quel que soit leur âge, etc., n'ont pas les mêmes ressources et les mêmes moyens pour effectivement réaliser cette offre de service. Et enfin, j'ajoute un dernier point. Le commerce, c'est l'échange, c'est la relation. C'est-à-dire que effectivement, demander à un commerçant, on le voit aujourd'hui en librairie, on voit que les employés des librairies, eh bien, c'est pas forcément leur idéal de métier que de préparer des commandes et préparer des sacs et des cartons.
Oui, mais néanmoins, effectivement, ça sauve bien entendu une saison, ou ça sauve quelques mois, donc, ou quelques semaines de trésorerie, et c'est important pour eux. Vous écoutez Le Temps du Débat, ce qui s'intitule ce soir « Les petits commerces sont-ils des biens publics ?» en compagnie de Vincent Chabot, on vient de l'entendre, de William Coeberlé et de Marie-Hélène Toraval.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurenton.
Qu'est-ce que tu fous ici?
Je fais mes courses. Faut pas gueuler comme ça, hein. Tu fais pas un chien. Je fais mes courses, ah oui, tu sais ce qu'on fait nos courses. Bah tiens, ton quai du coin. C'est pas où il y a le rayon bière et croquettes.
On prend pas pour un con.
Je prends pas pour un con. Eh, j'ai réfléchi à ce que t'avais dit. Tu vois que les gens viennent ici parce qu'ils viennent chercher la vie. Eh ben, en dormant, je me suis dit, t'as raison. Ils viennent chercher un peu de fraîcheur quand il fait chaud, un peu de chaleur quand... Quand il fait froid, bah, j'ai dit, ça c'est bien ça. Pourquoi je serais le seul con à rester en centre-ville? Donc je suis venu faire mes courses.
Voilà. Je te préviens, Benoît,
Si jamais tu fous la merde, frère ou pas frère, je préviens la sécu. Direct. Compris?
Ouais, c'est pas mon genre.
Ça, hein, ça vient là-dedans, c'est clair, t'as compris? Tu fous la merde, sécu. Rien à foutre du frangin. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est ça les règles. C'est ça les règles. C'est ça la norme. Rien à foutre du frère. Sécurité directe.
Un extrait du film Le Grand Soir, réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern. C'était en 2012, mais ils tiennent un discours qui a été tenu depuis par une écrivaine, comme Annie Ernaux. C'est dans les endroits où on vient chercher la vie, les centres commerciaux. On va finir par les regretter, ces centres commerciaux, à partir du moment où on est en train de vouloir revitaliser les petits commerces, Vincent Chabot.
Les petits commerces sont effectivement le support de petits liens sociaux, des relations de surface, dirait Marc Auger, par exemple, c'est-à-dire des petites relations sans enjeu, mais qui sont très importants pour la cohésion sociale. L'intérêt du livre d'Annie Ernaux, c'est qu'elle s'est intéressée à un hypermarché, à un grand hypermarché, son hypermarché qu'elle s'approprie, au Champ, à Cergy-Pontoise, et elle montre effectivement toute l'ambivalence. C'est un lieu de la consommation, évidemment, mais c'est aussi effectivement un lieu où se déroule une vie subtile qu'elle a décryptée.
Oui, cela c'est intéressant, William Coverley, parce que après l'enthousiasme qu'il a pu y avoir pour les grandes surfaces et en particulier les hypermarchés, on sent aujourd'hui une sorte de volonté de les critiquer, mais en même temps il y a un autre ennemi qui vient d'arriver, c'est le commerce en ligne. Donc on ne sait plus très bien. C'est une bataille à plusieurs fronts, pourrait-on dire. Et aujourd'hui on se dit, tout compte fait, les hypermarchés ont aussi des valeurs, les valeurs d'aller s'y promener, comme les malls américains. On va aussi y flâner sans jamais faire de commerce, sans jamais acheter quoi que ce soit. Tout cela, c'est assez étrange parce que ça montre aussi la variété de nos rapports en tant que consommateurs à ces lieux qui sont des lieux où on peut acheter quelque chose.
Il est clair qu'aujourd'hui, le consommateur, il consomme à la fois en centre-ville, à la fois dans des grands centres commerciaux et sur Internet. Et c'est lui qui a le choix. Moi, aujourd'hui, dans les territoires, on décrit souvent les hypermarchés, les supermarchés, mais c'est eux qui ont réellement fait en sorte que, au niveau de l'emploi, ils ont pu être un tampon par rapport à une désindustrialisation, si vous voulez, des régions. Ce qui n'est pas le cas dans les métropoles. Dans les métropoles, là, il y a eu de plus en plus d'emplois, mais je dirais, ils ont suivi. Je vais revenir sur le problème de vacances commerciales que Madame le maire avait dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas opposer les choses. Quand on regarde les villes qui ont un taux de vacances, donc de magasins fermés dans les centres-villes, ce pourcentage, il est suivi dans la même ville au niveau des centres commerciaux. Et dans les métropoles où il n'y a pas de vacances commerciales, il n'y en a pas non plus dans les centres commerciaux. C'est-à-dire que c'est vraiment le client qui aujourd'hui, il utilise à la fois l'un et l'autre. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est de trouver un équilibre. Et aujourd'hui, il y a peut-être un équilibre qui n'est pas forcément trouvé, où certains modèles ont plus de facilité parce que moins de taxes à payer, par exemple, et derrière, peut-être plus nouveau, alors que les autres ont besoin de travailler sur leur historicité et puis, je dirais, d'avoir les charges d'entretien que les autres n'ont pas.
Marie-Hélène Toraval, ça doit être compliqué quand on est élu local comme vous l'êtes et maire d'une ville comme Romans-sur-Isère, parce que, en fait, vous le pointiez du doigt dès votre première intervention, il y a aussi une volatilité de l'acheteur que nous sommes chacun, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir des petits magasins près de chez lui, mais qui va souvent au centre commercial, qu'il a envie d'avoir un centre commercial, mais qui va préférer un soir parce qu'il a le temps acheter sur Internet et se faire livrer sur Internet. Et donc effectivement, ça doit être assez difficile pour pouvoir imaginer des investissements publics, pour pouvoir revitaliser les centres-villes, etc., etc., que d'avoir affaire à des consommateurs qui sont aussi girovagues, comme on disait à propos des moines au Moyen-Âge.
Oui, vu comme vous le présentez, c'est très difficile. Pour autant, je dois dire que ces multiples comportements sur un même consommateur, eh bien, je pense que nos centres-villes ont à prendre leur parti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, eh bien, je vais avoir un consommateur uniquement dédié aux grandes surfaces, un consommateur uniquement dédié aux centres-villes. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout de suite, oui, il est capable de pratiquer ces différentes formes d'achat, c'est-à-dire soit en centre commercial, soit par Internet, soit par le petit commerce. Mais il ne viendra pas chercher la même expérience, il ne viendra pas chercher la même chose. Donc ça veut dire aussi que moi, pour moi, les centres-villes ne sont pas morts. Nous, ce qui nous revient, c'est d'aménager nos centres-villes, c'est-à-dire qu'en termes d'aménagement urbain, il faut qu'ils soient agréables, il faut qu'ils soient marchands, il faut qu'ils soient sécurisés, et il faut qu'ils permettent aussi de pouvoir déambuler sans être gêné, sans avoir à s'inquiéter de circulation. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur des formes de piétonnisation. Et je pense aussi que le consommateur a besoin de cette expérience apaisante et de retrouver du lien. Et ce lien, il le retrouve au travers des petits commerces. Enfin, j'en ai marre de dire petits commerces parce que des commerces de centre-ville, ouais, tout simplement.
Mais ça veut dire que vous êtes moins dépendante. C'était quelque chose qui avait été pointé par le journaliste du Monde qui avait écrit Comment la France a tué ses villes, Olivier Rasmont. Il parlait de dépendance aux grandes surfaces, comme s'il y avait une dépendance à la drogue des grandes surfaces pour les municipalités un peu partout sur le territoire. Vous avez l'impression que vous êtes moins dépendante qu'auraient pu l'être vos prédécesseurs, par exemple, par rapport à cette question des grandes surfaces, c'est-à-dire que vous avez d'autres moyens pour pouvoir faire autre chose.
Moi, je vais retourner votre question. Je vais vous dire, imaginez-vous, vous êtes maire d'une ville, vous voulez attirer ou tout au moins garder vos habitants. Imaginez quelle politique vous allez mener si vous voulez garder vos habitants en leur expliquant qu'ils ont absolument plus de grandes surfaces autour. Comment garder des habitants si vous n'avez plus un commerce en centre-ville?
C'est bien de me poser la question, mais je ne suis pas maire d'une ville, mais effectivement, c'est une bonne question.
Donc, le maire vous répond qu'on a besoin de tout et que ce sont différentes formes de commercialisation, tout comme aujourd'hui, on nous demande de la connectivité, de la fibre pour pouvoir accéder plus vite et de meilleure qualité, parce que le consommateur, l'habitant aussi, exige d'avoir ce choix, ce panel de choix lorsqu'il veut consommer.
Vincent Chabot.
Oui, il y a plusieurs choses intéressantes qui viennent d'être dites. Premièrement, il y a effectivement l'Observatoire Société et Consommation avait estimé qu'un tiers des Français exprimaient une demande de proximité. C'est-à-dire qu'ils étaient des adeptes, justement, des commerces de proximité. Mais ce que dit madame est intéressant parce que finalement, le plan Action Cœur de Ville, il est aussi plus large que la reprise commerciale. L'objectif est de redynamiser les centres-villes et je pense qu'une partie des élus y réimplante des équipements, des logements, des services publics. Après, effectivement, un étalement urbain qui a été accompagné par un maillage de la grande distribution en périphérie. Voilà l'histoire et voilà finalement peut-être le changement qu'on a depuis quelques années.
Oui, alors avec d'autres paradoxes, par exemple William Coeberlé, c'est que effectivement on se retrouve avec des élus locaux qui sont en bagarre avec leurs voisins parce que par exemple Amazon, qui n'est pas qu'un commerçant en ligne mais qui a aussi des institutions physiques, pourrait-on dire, et qui est même à racheter des chaînes de supermarchés aux États-Unis, ça pourrait d'ailleurs peut-être arriver dans notre propre pays, eh bien Amazon veut installer dans tel ou tel endroit des très grands entrepôts qui vont créer de la main-d'œuvre, évidemment, et donc on a des conflits qui peuvent s'instaurer entre élus locaux, par exemple, William Coeberlé.
Bah, disons pas tellement au niveau des élus locaux. Je dirais que là, c'est celui qui peut récupérer, entre guillemets, l'entrepôt, mais pas le magasin pour l'instant, de Amazon. Je dirais que la problématique de ça, c'est que aujourd'hui, en termes d'emploi, pour faire 1 million de chiffre d'affaires, vous avez besoin de 3 voire 5 fois moins de personnes que dans un magasin. Bon, et puis après, les politiques fiscales bien optimisées font que on va fustiger Amazon. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est reprendre le problème à l'envers, c'est se dire que pour 1 euro de chiffre d'affaires, il faudrait qu'il y ait la même taxe, que ce soit pour les gens en ligne, en click and collect ou en magasin. Et là, vous auriez une équité parce que finalement, le commerce de proximité, lui, il supporte des taxes de centre-ville, des taxes d'habitation, enfin des taxes foncières. Et je dirais qu'il aujourd'hui grève son compte d'exploitation, donc sa possibilité également d'être en termes de prix mieux placé parfois.
Ouais. Prenons un exemple, le commerce alimentaire, parce que là on parle beaucoup de commerces de centre-ville qui ne sont pas forcément alimentaires. Vincent Chabot, 70% de l'approvisionnement alimentaire passe par les grandes surfaces pour l'instant. Mais néanmoins, on valorise beaucoup les circuits courts, les AMAP, les magasins bio de centre-ville. Comment faire la part entre les deux? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la masse d'un côté, qui est d'abord faite par l'approvisionnement dans les grandes surfaces, et puis il y a un apport qui croît chaque année, mais qui est relativement mineur tout de même.
Là, il faut rappeler quand même que la grande distribution reste attractive par les prix qu'elle pratique. Il ne faut pas oublier ça. Donc effectivement, après, il y a entre 15 et 18% l'approvisionnement alimentaire vient d'autres circuits, notamment les épiceries, les réseaux de proximité, le marché du dimanche, etc. Je crois que la solution aussi, l'égalité fiscale entre toutes les formes de commerce, comme disait Monsieur Coberlé, effectivement, c'est quelque chose qui doit avancer. Et puis, je pense aussi qu'il y a une affaire de sensibilisation des consommateurs. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que la crise qu'on a traversée aidera à ça, accompagnera effectivement cette sensibilisation, c'est-à-dire aider chaque Français à décrypter les enjeux du commerce en termes d'emploi, d'argent, de fiscalité.
Oui, Marie-Hélène Toraval, malheureusement, la crise va permettre aussi l'ouverture de magasins qui sont des magasins où on distribue de la nourriture et on la distribue gratuitement, des paniers repas, les restos du cœur, etc. C'est ça aussi qu'on va avoir dans les centres-villes ou ailleurs. D'ailleurs, à partir de ces mois-ci, ça commence tout juste cette semaine, mais c'est très, très important aussi que de dire cela. C'est-à-dire que nous parlons comme si tout le monde pouvait aller dans ces grandes surfaces ou commander sur le net, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne le peuvent pas, Marie-Hélène Toraval.
Oui, bien sûr, les situations de pauvreté sont plus nombreuses. Pour autant, ces situations de panier, ces distributions de produits gratuits qui s'opéraient déjà auparavant. Enfin, donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ils ont plus de ressortissants. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure, parce que vous interrogiez l'élu par rapport au commerce. Mmh. Je voulais juste préciser aussi que le rôle de l'élu, c'est de ramener du flux dans les centres-villes, et que dans les commerces vacants, s'ils sont vacants, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément une nouvelle destination sur du commerce, mais peuvent trouver d'autres opportunités. Nous, c'est ce que nous avons fait, notamment sur des commerces qui étaient fermés. Hein, et ces commerces fermés n'avaient pas la taille critique pour accueillir une activité commerciale. Donc les propriétaires, eh bien, les laissaient à l'abandon. On a contractualisé avec eux, on a sorti un dispositif qui s'appelle Shop in Romanf, où on leur a demandé de faire les travaux. En contrepartie, nous louons le local commercial pour 2 ans et nous lançons des appels à projets. C'est ainsi qu'on a installé plusieurs artisans d'art. Et quand on installe des artisans d'art dans des rues médiévales, eh bien finalement, on suscite la curiosité, l'intérêt, et on a des nouveaux flux qui arrivent dans nos centres-villes. C'est cette mixité aussi qu'il faut que nous arrivions à réussir.
Oui, et cette mixité, effectivement, entre le très lointain et le très proche, Vincent Chabot, ce qu'on appelle le localisme digital, tout un tas de termes que j'ai découverts en vous lisant ou en lisant la documentation qui nous a permis de préparer cette émission. Et effectivement, on a l'impression que cette mixité, ce mélange entre le très loin, le très proche, par exemple, entre les circuits courts, les circuits de plus longue distance, tout cela, c'est le propre même du commerce tel qu'il est en train de se mettre en place ces temps-ci en France.
Oui, c'est-à-dire que je pense que la deuxième étape de la révolution du e-commerce, elle est peut-être celle, effectivement, de la plateformisation du local. Je prends un exemple. Pendant le premier confinement, on a beaucoup, en tout cas dans la presse quotidienne régionale, évoqué et parlé des drives fermiers. C'est-à-dire une forme commerciale de circuit court alimentaire extrêmement en vogue. Donc, ça a été créé il y a quelques années, mais ça s'est énormément développé alors que les marchés et la restauration étaient fermés pendant le premier confinement. Là, on a un exemple. Alors, évidemment, ça peut être vu comme une forme de bricolage, mais avec d'autres architectures, d'autres infrastructures et une volonté politique, ce genre de consommation en ligne au service du territoire, au service, de nos emplois, peut être effectivement une orientation vertueuse.
William Coberlé, des commerçants ont lancé un hashtag sur le net qui s'appelle Noël sans Amazon. Vous y croyez ?
Non. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas sans Amazon. C'est à nous de faire en sorte que on soit la proposition, tant en termes de qualité de proposition, de sécurité, de prix et autres, soit meilleure. Je veux dire que Amazon est là parce que en face. On n'a pas mis forcément l'ensemble des arguments, mais par exemple, quand on parle d'Internet et de proximité, moi je suis sûr que À partir du moment où on a une vraie politique d'accompagnement, l'Internet sera quelque chose de très très important pour l'ensemble des magasins de proximité. Mais pour l'instant, on n'a encore rien fait, tant au niveau de la data que d'organiser la logistique.
Oui, d'ailleurs, le responsable de la CPME des Pyrénées-Atlantiques disait, on nous parle numérisation, mais c'est pour demain. Nous, on meurt aujourd'hui, disait-il.
Oui, mais c'est pour ça que dès aujourd'hui, il faut que chaque commerçant puisse être présent sur le net.
Merci.
Et c'est pas forcément aller en termes de plateforme.
Merci
c'est
à vous.
Uniquement
merci.
Une présence, dire qui on est.
Merci beaucoup, William Cobert. Je rappelle que vous êtes président du Conseil du commerce de France depuis 2016. Merci à Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère, sans étiquette et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'à Vincent Chabot, maître de conférence en sociologie à Paris Descartes et auteur d'un très bon livre, Éloge du magasin contre l'amazonisation, dans la collection Le Débat chez Gallimard. C'était le temps du débat qui se termine sur Charlie Mingus, Tijuana Gift Shop. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier, Iman Gilles à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes et Assia Ralid à la réalisation. Dans le temps du débat demain, que comprennent les médias américains de la France? Une discussion qui a été lancée par le président de la République soi-même sur la façon dont les médias américains ne comprendraient pas ce qui se passe en France, en particulier les questions de laïcité. On en discutera demain. Dans 3 minutes, Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec Elena Noguera. Vous écoutez France Culture, il est 19h01. Les titres de l'actualité sont présentés par Marie-Hélène Duvigneau.